1h05, c'est la dernière partie de la grande table. Caroline Brouet.
Son livre a reçu le prestigieux prix américain National Book Award en 2015. Son livre a été le numéro 1 des ventes du New York Times. Il a été encensé par Toni Morrison et par Barack Obama. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui son auteur, Ta-Nehisi Coates. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes journaliste, vous êtes correspondant à The Atlantic. Vous êtes écrivain, donc, de ce livre, notamment Une colère noir, qui paraît en français, traduit par Thomas Chaumont aux éditions Autrement, un livre, je le disais, nous avons le privilège, en même temps, votre livre ne fera sûrement pas plaisir à tout le monde. C'est un livre implacable, c'est un livre sans concession, il a une grande force à la fois poétique et politique, et je suis sûre que notre lectrice du jour, notre troisième lectrice du jour, Sylvie Laurent, sera d'accord avec moi. Vous l'avez sûrement lu en anglais, Sylvie Laurent, et vous allez m'aider à poser des questions, nous aider avec Antoine Mercier à poser des questions plus pointues à Ta-Nehisi Coates. Aujourd'hui, je salue également la traduction qui va être simultanée par l'ami Michel Zlotowski. Bienvenue à vous, Sylvie Laurent. Vous êtes américaniste, vous êtes spécialiste de l'histoire noire américaine. Vous étiez venue nous parler de votre biographie de Martin Luther King, parue cette année aux éditions du Seuil. Ce livre, Ta-Nehisi Coates, est une adresse, un livre en forme d'adresse, de lettre, à votre fils, qui a une quinzaine d'années, je crois, sur le fait d'être noir aux États-Unis. C'est un livre qui pose une question dès le début. Comment vivre avec un corps noir dans un pays perdu dans le rêve? Autrement dit, comment vivre libre avec ce corps? C'est d'abord le corps, c'est une expérience du corps que vous décrivez. Mais avant de vous poser la question sur le corps, je voudrais vous poser la question de l'intention que vous aviez en écrivant ce livre à votre fils. C'est une mise en garde, cette lettre?
Well, I mean, it's difficult to actually answer the question of what my intention was.
Difficile de répondre à cette question sur quelle était mon intention.
For the most part, I mean, I don't know, I consider myself, this might sound arrogant, but
ça peut sembler un peu arrogant pour moi, mais
I thought Between the World and Me to be a work of art. I wanted to
le titre en anglais, Entre le monde et moi, je voulais que ce soit simplement une œuvre d'art.
I wasn't particularly concerned about
je n'étais pas particulièrement inquiet sur ce que les gens allaient en penser, comment ils allaient le recevoir. Et en fait, je suis très surpris que tant de personnes aient réagi de la manière dont ils l'ont fait. J'ai un ami qui a été tué il y a 15 ans par un policier. Mon ami a été tué à peu près un mois avant la naissance de mon fils. Et je suis resté avec ça pendant 15 ans. J'ai cherché des manières de l'exprimer. Et en ce moment-ci, aux États-Unis, où on a tous ces gens qui sont tués par la police, ben ça m'a semblé être le bon moment.
Autant votre livre, votre fils, pardon, Ta-Nehisi Coates, est absent de ce livre, autant Prince Jones, cet ami qui a été tué il y a 15 ans, est très présent. C'est presque le fil rouge de ce livre. C'est comme un hommage que vous lui rendez. Vous dites que vous avez été surpris par les réactions. Je citais Barack Obama, Toni Morrison, qui l'a d'ailleurs encensé, comme si vous veniez combler un vide depuis James Baldwin. Donc elle le prend vraiment comme une œuvre d'art aussi, comme un livre littéraire. Vous dites surpris. Est-ce que vous êtes content? Ou est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que ça renforce votre colère?
Obviously, I'm happy.
À l'évidence, je suis content.
When you have, you know, Toni Morrison, you know, who's,
quand,
you know,
Toni Morrison, qui n'est pas simplement la reine de la littérature noire américaine, mais la reine de la littérature américaine au sens large. Elle a, à l'évidence, connu James Baldwin, et qu'elle dise quelque chose comme ça, c'est un honneur extraordinaire pour moi. J'avais franchement aucun espoir que le président des États-Unis lirait ce livre, donc c'était une grande surprise. C'était vraiment frappé par les ventes. Bah, toute personne qui écrit veut vendre, bien sûr, mais bon, je ne veux pas dire que je sois fâché par ça, mais en mon cœur, en mon âme, je suis journaliste. Je sais qu'en France, c'est un peu différent, cette différence entre journaliste et écrivain. Mais moi, dans mon cœur, je suis écrivain. Donc c'est difficile de voir ça de l'extérieur. Je crois qu'une partie de moi est très très contente, véritablement, oui, très très contente. Et la partie la plus privée de mon être est, disons, moins heureuse.
Alors venons-en à ce corps qui est premier dans votre livre. Comment vivre avec un corps noir dans un pays perdu dans le rêve, écrivez-vous, Ta-Nehisi Coates. Ce rêve, c'est le rêve des Blancs, ce rêve des Blancs auquel vous dites qu'en tant que noir, vous n'avez jamais eu accès. Ce que vous vivez comme couleur de peau est d'abord une crainte que vous avez inscrite dans votre chair. La peur, la violence. Ce sont les deux choses. C'est d'abord le corps qui l'éprouve.
In America,
en Amérique, il y a cette tradition de parler des Africains américains, des Afro-Américains, comme par exemple dans le titre, la colère noire, vous savez, en termes de rage, de colère, c'est tout ce qu'on a. Je crois que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en étant noir, c'est cette peur constante. Le monde de l'extérieur voit la colère, mais nous, dans nos moments privés, en étant noir, quelqu'un qui a été élevé en tant que noir, qui a eu une mère noire, un père noir, et qui pense à toutes les choses qu'on nous a racontées, comment on se sent, comment on se sentait quand moi, j'allais à l'école, enfant. Eh bien, la colère est un sentiment prédominant, c'est ça.
Vous savez, Ta-Nehisi Coates, ce que vous dites là et ce que vous écrivez dans le livre me fait penser à ce que peut ressentir une fille, une femme. Et à ce qu'a écrit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, mais on est quand même, parce qu'on le découvre très vite, avec cette peur constante. Est-ce qu'on apprend ça, à devenir noir ?
That would be a totally different experience, I think.
Ce serait une expérience totalement différente, à mon avis.
This is the hard part. The book, you know, really,
le livre
really was written from my
a été écrit véritablement à partir de mon expérience limitée. C'est de là que ça peut venir, et c'est de là que seulement ça peut venir.
I didn't have a daughter, you
know? Je n'ai pas eu de fille. Je n'ai pas eu l'expérience de la femme noire. Vous savez, je parle des femmes noires dans mon livre, mais c'est simplement de mon point de vue à moi. Ce que je dis aux gens, on a besoin de plus de livres. Je ne peux pas représenter l'ensemble des Noirs américains. On a besoin de livres qui viennent de toutes les expériences de toutes les personnes différentes. Et voilà, c'est ça que je peux dire ici.
Une question d'Antoine Mercier.
Oui, je voudrais savoir plus précisément cette peur, cette violence quotidienne qui est renvoyée. Comment est-ce qu'elle est reçue dans le corps, puisque c'est ça effectivement la grande force. Est-ce qu'il y a des symptômes aussi qui sont perceptibles?
Oui.
Je ne
suis pas scientifique, je ne suis pas médecin,
mais
apparemment ça prend des années avant que ça puisse se calmer. Et même si ça ne prend pas des années, ça serait un terrible amont, un temps énorme avant qu'on puisse oublier cette peur. Un exemple du livre. Quand je vais à l'école, 30% de mon cerveau est dédié à me maintenir en vie. Comment est-ce que je vais? De quel côté du trottoir? Quels sont les vêtements que je dois porter? Qu'est-ce que je fais après l'école? Avec qui je vais être assis pendant le repas? Tout ça se portait sur la peur et la violence. La plus grande partie des enfants blancs aux États-Unis n'ont pas besoin de penser comme ça. La grande majorité des enfants noirs aux États-Unis doivent réfléchir à ça. Pour moi, c'est la différence la plus explicite. Et puis, après, bon, il faut travailler à l'école comme n'importe quel autre enfant.
Sylvie Laurent.
Écoutez, moi, je suis vraiment extrêmement contente de pouvoir parler de ce livre que j'ai lu en effet aux États-Unis lorsqu'il est paru en anglais. Et c'est vraiment un lieu commun, mais je voudrais dire que peut-être le titre choisi par l'éditeur français ne donne pas une véritable idée de ce dont parle ce titre. Je voudrais proposer une alternative. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ce dont parle ce livre, c'est du thème de la consolation. Les Noirs américains, Ta-Nehisi et son fils, sont inconsolables. C'est ce qu'il exprime dans ce livre. Ta-Nehisi est inconsolable depuis la mort de son ami. Et le livre s'ouvre avec une scène qui m'a beaucoup touchée et qui est extrêmement intéressante, où son fils apprend que les policiers qui ont tué Michael Brown, un de ces très nombreux Noirs tués par la police et qui n'ont pas été poursuivis, est très triste et qu'il quitte la pièce. Et je voudrais vous lire très vite ce qu'écrit Ta-Nehisi au moment où son fils part en disant « Il faut que j'y aille ». Il dit « Tu es allé pleurer, tu es allé te réfugier dans ta ta chambre, je t'ai entendu pleurer. Je suis venue te voir 5 minutes plus tard, mais je ne t'ai pas pris dans mes bras, je ne t'ai pas consolée, parce que je pensais que te consoler était une mauvaise idée. Je ne t'ai pas dit que tout se passerait bien, parce que je n'ai jamais cru que les choses se passeraient bien. Et le thème de la consolation, et c'est d'ailleurs intéressant, il y a un livre, le livre de Michael Fossel, qui parle du temps de la consolation, qui nous explique ce que c'est la consolation. Étymologiquement, la consolation, c'est être ensemble. Et ce que demandent finalement les Noirs américains à travers la voix de Ta-Nehisi, c'est non pas que les Noirs se consolent entre eux, ils ne le peuvent pas. Ça n'est pas à Toni Morrison de consoler Ta-Nehisi, et Ta-Nehisi ne veut pas consoler son fils. Ce qu'il cherche, c'est la consolation par l'Amérique, la reconnaissance de la légitimité de la souffrance, de la légitimité du chagrin. Et peut-être plus que de la colère, c'est la question du chagrin, de l'affliction. Il y a ce mot américain formidable dans la tradition noire qui est sorrow. L'expression de quelque chose de subversif. J'ai le droit d'avoir du chagrin. Et en exprimant le fait que je suis inconsolable et que je veux votre reconnaissance, j'exprime le fait que je demande la justice. Et donc j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de l'idée que peut-être votre texte appartenait à cette tradition, alors très séculière, vous ne croyez pas en Dieu, mais un petit peu comme Du Bois, retrouver cette expression du sorrow, c'est-à-dire la façon de mettre en cause l'injustice de la société avec ce droit de dire « j'ai du chagrin, regardez-nous, nous sommes légitimes » et peut-être est-ce en lien avec votre demande pour des réparations qui ne sont autres finalement que la reconnaissance pour que l'Amérique puisse nous permettre d'être consolée étymologiquement, d'être avec nous. Il faudrait qu'elle entende la légitimité de notre affliction et de notre chagrin.
Ta-Nehisi Coates.
Oh, c'était incroyable. That was incredible. Wow. Blown away.
Ça me souffle.
No, I think the theme of sorrow, I think that's exactly right. I think that's one of the criticisms of the book that I got over and over again was,
une des critiques, you know, contre le livre.
Where's the hope?
C'est où est l'espoir?
And there's this expectation,
et il y a cette attente, particulièrement parmi les écrivains afro-américains, que l'on va écrire quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui va dire aux gens, allez, c'est pas grave, le soleil brillera demain, tout ira bien. Et je l'ai dit au début de cette interview, je voulais exprimer quelque chose. C'était véritablement l'émotion la plus élevée que j'ai ressentie. C'est ce qui m'a poussé à écrire. Et mon émotion, c'est pas que les choses allaient aller bien. Non, je me ressentais pas du tout comme ça. Je sentais le sorrow, la peine. Et chaque fois que je vois ces vidéos que l'on voit sans cesse sur les télés en Amérique, des jeunes gens, parfois des jeunes femmes, tuées par des policiers. C'est là que je ressens cette peine.
Et
ça aurait été malhonnête de dire à mon fils, mais tout ira bien. Non, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas ça. Ça serait pas une conversation honnête entre lui et moi.
Donc,
c'est pas un terme que j'ai utilisé. Mais sorrow, peine, c'est vraiment le bon mot. Merci, excellent.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Notre invité aujourd'hui est Ta-Nehisi Coates, qui est journaliste et qui est l'auteur d'Une colère noire, lettre à mon fils, paru en français aux éditions Autrement. Autour de la table pour dialoguer avec lui, pour l'interroger à nos côtés, l'américaniste Sylvie Laurent.
Oui, peut-être aussi pour replacer cette chose extraordinaire qui est la façon dont on peut, à travers le livre de Ta-Nehisi, penser la question de la souffrance et son impression, son imprint dans le corps. Ce livre m'a fait penser à Frantz Fanon, qui le premier, évidemment, pas le premier, mais un des plus importants dans notre héritage intellectuel francophone, a pensé cette question noire dans son expression du corps. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup pensé à Fanon en lisant ce livre, c'est pour cette phrase de Peau noire, masque blanc. À la fin, Fanon écrit « Oh mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ». Et la raison pour laquelle ni le thème de la colère, ni le thème de la déploration, décoration ou de la simple expression de la souffrance ne correspondent à ce livre-là, c'est que ce livre est une mise en défi. Finalement, ce que vous dites à votre fils, c'est ne cesse jamais d'interroger. Sois toujours conscient que le monde dans lequel tu es est un monde qui a besoin que tu mettes en cause l'ordre tel qu'il est. Et donc, il y a quelque chose de très subversif, un appel peut-être à ce que Fanon aurait appelé une révolution intérieure, mais cette éducation que finalement, vous savez, il y a quelque chose de très traditionnel aux États-Unis, et ce livre en est un exemple, ce qu'on appelle « the talk », la conversation. Chaque famille noire américaine, en particulier les mères célibataires qui élèvent leurs enfants, quand l'enfant arrive à 13-14 ans, il faut avoir la conversation. Et la conversation, ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire au fils, qui sans doute l'avait déjà compris, tu sais, être noir aux États-Unis, être un jeune garçon noir aux États-Unis, ça suppose des devoirs. Et pour protéger ton corps, ce dont vous parlez très bien, il faut que tu saches quelque chose. Quand tu rencontres un policier, dis toujours oui monsieur, bonjour monsieur, et toujours tes mains en dehors de tes poches, ne mets pas ta capuche de sweatshirt sur la tête. Et cette chose incroyable qui est qu'il est obligé, les mères sont obligées de dire à leur enfant, surtout ne te fais pas remarquer, c'est exactement ce que Fanon explique lorsqu'il explique l'intériorisation. Vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des stigmates, est-ce qu'il y a une pathologie? Eh bien, la pathologie, c'est être obligé de se conformer à cet ordre qui veut qu'il ne faut pas se faire remarquer, il faut se préserver. Et vous décrivez remarquablement le fait que c'est quelque chose comme une maladie mentale intériorisée d'avoir en permanence à dire oui monsieur, bonjour monsieur, à toujours être sur ses gardes. Et donc j'aurais aimé savoir si Fanon, avec cette phrase « Oh mon corps, fait de moi toujours un homme qui s'interroge », ça yeah. vous parle un petit peu.
I have it, it's funny because wherever I go with this book, people ask me about Fanon.
Partout où je vais avec mon livre, les gens me posent la question sur Fanon.
Like 20 years. And when I read him, I was 20 years old.
Quand j'avais 20 ans, il y a 20 ans, j'ai à peine compris quand je l'ai lu. Mais c'est resté quelque part dans un coin de mon esprit. Et là, sur le point que vous avez soulevé, cette notion de d'avoir vraiment de se contorsionner, de se contenir, contenir sa propre humanité pour pouvoir vivre comme tout le monde. C'est pas véritablement, c'est pas mon idée originale, évidemment, je peux pas prendre crédit de ça. Mais un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on vit une époque aux États-Unis où les gens en parlent comme si c'était une valeur. On a cette phrase. C'est deux fois mieux que. Pour moi, c'est le symptôme de la gravité des choses. Parce que toute personne qui doit travailler deux fois pour avoir simplement la chose que les autres ont avec une fois, bah, ça va pas. Ça veut dire que nous, on n'a que la moitié de ce que l'on pourrait avoir. Toutes ces règles, toute cette histoire de la discussion, du talk, ça semble comme une perte d'humanité. Il faut se rétrécir. On n'a pas accès à la même gamme d'émotions que les autres.
Mais sur cette différence établie par Sylvie Laurent entre, et que vous avez relevé également, Ta-Nehisi Coates, entre l'espoir, puisqu'on vous pose toujours la question pourquoi il n'y a pas d'espoir dans votre livre, je n'ai jamais cru que les choses iraient bien, dites-vous. Et cette notion de subversion, de vigilance permanente, qu'est-ce qu'il en pense, votre fils? Comment il reçoit ça? Est-ce qu'il n'y a pas une différence de génération de ce point de vue-là?
Oui, c'est une différence. He's 25 years younger than me, and so it's.
Vous savez, il a 25 ans de moins que moi.
I won't pretend that it's the same world.
Je ne veux pas dire que c'est le même monde.
It's a black president.
Il y a un président noir.
That means something. That
ça veut dire quelque chose. Ça a certainement un sens.
When I was a child,
quand moi j'étais enfant,
I didn't have any friends who weren't black.
J'avais pas d'amis qui n'étaient pas noirs.
I didn't really know anybody who wasn't
Je connaissais personne
black.
Qui ne soit pas noir.
I mean, I didn't really know white people until I was like 20 years old.
Je n'ai pas rencontré d'autres gens que des noirs jusqu'à l'âge de 20 ans. Moi, je vivais dans un quartier de Baltimore où il n'y avait que des noirs.
He has a different experience. It's much
Il a une expérience différente, beaucoup plus diverse.
He's living with me here in Paris
Il vit avec moi ici à Paris en ce moment.
And when I was his age, I didn't have the ability to even
moi,
value
pas
that. I didn't
la capacité même de comprendre ce que ça pouvait signifier à son âge. que ça pouvait être une bonne chose.
I had no notion of opening your mind.
J'avais aucune notion de ce que c'était ouvrir son esprit de la manière dont le sien est ouvert.
That's my son.
Le problème, c'est que c'est mon fils.
That's, you know, him with all the advantages that I've been able to provide.
Avec tout ce que j'ai pu lui fournir comme information, que sa mère a pu fournir comme information. Est-ce que c'est différent pour la génération des enfants noirs de sa génération? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. C'est différent pour lui, très spécifiquement. Mais pour la plus grande partie d'entre nous, je n'en suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il y ait une différence.
Il faut attendre encore quelques années, peut-être, pour que lui écrive le livre que vous avez écrit, Tennessee Coates, avant celui-ci, avant Une colère noire, donc, qui est Le beau combat, et qui est un livre sur ce que votre propre père vous avait transmis, précisément. Père, membre des Black Panthers, père, éditeur de littérature noire, qui vous avait transmis des choses. Quoi ?
Well, I think... My father was a very interesting, isn't very interesting person.
Mon père est quelqu'un de très intéressant. C'est un éditeur, ancien membre des Panthères Noires. La lecture, la découverte de qui vous êtes, on a le savoir de soi-même. Hein, on dit ça en anglais, self-knowledge, savoir se connaître soi-même. C'est une chose qui est très importante, au-dessus de tout d'ailleurs. Même là où j'ai grandi à Baltimore, avec tous ces faits, véritablement, ça m'a été transmis de façon extrêmement puissante. Donc je reviens à votre première question, mais je crois que c'est vraiment très important. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas trop pensé à l'effet, ou les causes, ou les réactions, à l'autre côté du livre, par exemple. Parce que dans la maison où j'ai grandi, la recherche intérieure, la recherche pour savoir qui vous êtes, ça, c'était au cœur de toute la littérature noire à laquelle j'avais accès. Donc c'était très important.
Antoine.
Oui, laissons donc de côté l'espoir. Peut-être prenons ce terme de consolation. Pour qu'il y ait consolation, est-ce qu'il faut que quelque chose cesse ou est-ce qu'il faut que quelque chose se produise de nouveau?
Does consolation help? Does consolation help? Does it?
No. Has anything to stop or has anything to be given so it stops?
I don't think so.
Ben, je ne sais pas, je ne pense pas.
I don't think so. I think what we're talking about is a
je crois que ce dont
melody.
On parle, c'est un air, une mélodie nationale.
It's not personal, it's systemic.
Rien de personnel, c'est systémique.
And it goes to like the roots of America.
Ça remonte aux racines de l'Amérique. C'est une des choses que je tente de faire comprendre par ce livre. L'Amérique n'est pas un pays où le racisme est allez, quelque chose qui est de côté. C'est pas le dessert, c'est pas les légumes à côté. Non, c'est le plat principal. Il n'y aurait pas d'Amérique sans racisme. Je le dis dans le sens le plus littéral du terme. Personne n'aurait travaillé la terre de cette manière-là. Avant que les esclaves aient été libérés en Amérique, au début de la guerre civile, 60% des exportations d'Amérique, c'était du coton. On ne peut pas littéralement imaginer l'Amérique sans les exportations de coton. Quand je vais à Paris, quand j'entends la musique dans les restaurants, qu'est-ce que j'entends? C'est de la musique noire, qui est la musique de la peine. C'est littéralement la musique de la peine. C'était très difficile, c'est très difficile d'imaginer l'Amérique sans le racisme. Est-ce que je réponds à votre question?
Oui, ça c'est pour, enfin en partie, mais ça c'est pour le passé. Si on ne peut pas envisager qu'une Amérique... Oui, bon, c'est pour aujourd'hui. Est-ce que l'on peut, pour le futur, tout de même imaginer que l'Amérique puisse exister sans le racisme? C'est ça la question, quand même.
Tennessee Coates.
Yeah, that's a different country.
Ouais, ça serait un pays différent.
That's a country without race, and I don't mean
un pays sans race. Je ne le prononce pas dans le sens de ce que les autres gens pensent par race. Voici le problème.
On vit
comme s'il y avait deux types de personnes. Un groupe de race noire et l'autre groupe de race blanche.
Race is not something that, you know, just sort of happened.
La race, c'est pas quelque chose qui se produit naturellement. C'est pas parce que j'ai des ancêtres africains. C'est pas parce que des gens aux États-Unis ont des ancêtres européens ou pas. Non, c'est un système. C'est le résultat d'un système. Et dans un monde sans racisme, il faudrait que les gens s'appellent ou se nomment blancs, des gens qui se croient blancs, pour véritablement renoncer à tous leurs privilèges. Ça serait véritablement la transmission des ressources. Pourquoi quelqu'un le ferait? Et dans l'histoire, quand est-ce que ça s'est produit? Ça se produit après un grand désastre. Ça ne se produit jamais de par la bonne volonté de qui que ce soit.
Sylvie Laurent.
Oui, je pense qu'il est important qu'on comprenne ce que le racisme a de particulier. Je crois qu'on se trompe. Vous receviez récemment Gérard Noiriel et Roche Dizem pour le film Chocolat, et je les entendais expliquer le racisme, finalement, c'est la haine de l'autre, si on considère que l'autre est inférieur. Le racisme américain, c'est pas du tout ça. Si le racisme, c'était juste penser que les Noirs savent danser, qu'ils sont mal polis et qu'ils violent les femmes, ce serait très simple, on s'en serait débarrassé depuis longtemps. Le racisme est un système de relations sociales qui infuse absolument tous les éléments de la société et qui définit qui a le pouvoir, qui décide des institutions, qui a accès à la richesse, qui a accès à la parole. Et renoncer à ça suppose de commencer par reconnaître la réalité. Je vais vous donner un petit exemple puisque vous l'invitiez à parler de l'optimisme. Le maire de New York actuel, qui est un maire démocrate, qui s'appelle Bill de Blasio, est italo-américain, il est marié à une femme noire et donc il a un enfant métis qui porte un grand afro. Et il a été élu dans l'enthousiasme comme le nouvel Obama, etc. Et après un énième assassinat de jeunes noirs dans les rues de New York, il a avoué qu'il avait dû lui aussi avoir avec son fils la conversation, the talk, qu'il avait dû lui dire, lui, tout maire de New York qu'il est, tu sais, fais attention quand tu croises un policier blanc, surtout regarde par terre et n'aie pas l'air défiant. Et quand ça a été su qu'il avait dit ça à son fils, la police de New York a lancé l'idée selon laquelle il était opposé aux Blancs, que c'était un raciste. Ses taux de popularité parmi les Blancs se sont effondrés. Encore aujourd'hui, il est un des plus impopulaires. Et quand les Noirs ont dit « les vies noires comptent »,« Black Lives Matter », la police a répondu « la vie de la police, ça compte aussi ». Blue Lives Matter. Ce qui veut dire quoi? Que le degré de résistance de la population blanche face à ce qui est la réalité, ce qui est visible à l'œil nu, est assez incroyable. Et donc, je me demandais si vous aviez été surpris par le fait que les gens soient surpris de ce qui est arrivé à Bill de Blasio. Évidemment qu'on lui en a voulu de dire qu'il avait eu the talk avec son fils.
Ta-Nehisi Coates.
Bill de Blasio is obviously white, but he's got a black kid.
Bill de Blasio, à l'évidence, il est blanc, mais il a un enfant noir.
Which is not a scientific fact, but it's a fact.
C'est pas un fait scientifique, mais c'est la façon dont on peut voir que le racisme est organisé de façon systémique aux États-Unis. Une des clés de ce livre, un des points importants de ce bouquin. Prince, c'est le nom de mon copain qui a été tué. Il n'était pas pauvre. C'était pas un criminel. Il n'était pas associé avec le genre de groupe qu'on pourrait dire groupe en danger d'être tué par la police. Sa mère était médecin. Elle avait pris l'ascenseur social à partir d'un endroit pauvre jusqu'à arriver à un endroit riche. Il avait une bonne famille. Et en Amérique, c'est pas suffisant pour vous sauver si vous êtes noir. En Amérique, être noir, c'est une classe en soi-même. Donc non, ça ne m'a pas surpris du tout, cette histoire de Bill de Blasio.
Vous savez, Sylvie Laurent citait Omar Sy, qui est l'acteur noir le plus célèbre en France et qui joue dans un film qui sort aujourd'hui même, Chocolat, qui raconte l'histoire du premier clown noir qui fut une célébrité avant de mourir dans la misère et dans l'oubli complet. Omar Sy est allé aux États-Unis. Quand il va aux États-Unis, Omar Sy dit « Ici, au moins, je suis français avant d'être noir. » Vous, Ta-Nehisi Coates, qui vivez maintenant à Paris pour quelques temps, vous dites exactement l'inverse, ou plutôt exactement la même chose, puisque vous dites « Ici, au moins, je suis américain avant d'être noir. » Alors, comment comprendre ces perceptions différentes?
Je
veux faire la différence entre moi et
les autres.
Moi, je suis américain.
I have relative privilege,
j'ai un certain privilège.
I'm relatively wealthy compared to,
je suis assez riche par rapport aux gens qui sont ici. À la plupart des Noirs, comparé à la plupart des Noirs dans ce pays, par exemple. Pour moi, oui, je suis perçu en tant qu'Américain. Je me sens plus Américain à Paris que je ne le sens à New York. Et ça, c'est parce que quand je parle, quand j'essaie de parler en français, les gens entendent mon horrible accent, et c'est la première chose qui compte pour eux. Je peux comprendre ça, oui. Mais il est important de faire la différence entre l'image que l'on a que la France est une société sans racisme. Ce n'est pas ce que je dirais. Mon expérience individuelle est différente. Et c'est important, c'est significatif. Mais je ne sais pas ce que cela dit du racisme en France. Tout comme l'expérience personnelle d'Omar Sy dit quelque chose ou ne dit rien du racisme aux États-Unis.
Antoine.
Une petite question quand même sur Obama. Ça n'a rien changé, 8 ans ou 7 ans et demi de présidence Obama. Cette question du racisme systémique, comme vous l'appelez.
Non, ça n'a rien changé du tout sur le racisme systémique aux États-Unis, non. Mais comment ça pourrait le faire? C'est pas un échec de sa part. Si on remonte à l'époque coloniale, et il faudrait le faire d'ailleurs. Vous savez, ça commence en 1619, l'esclavage aux États-Unis. C'est 400 ans de politique systémique de la suprématie blanche dans ce pays. Et on ne peut pas écarter ça en 8 ans, un président noir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je le dis tout le temps aux gens. Au Pakistan, il y avait une chef d'État, une femme. Est-ce qu'on pense que ça va mettre un terme au sexisme au Pakistan? Ce n'était pas ça l'espoir. Mais ce qui est derrière cette question, c'est cette hâte à y mettre un terme sans avoir à mettre les ressources nécessaires dont j'ai parlé précédemment. Je crois que Barack Obama a fait un bon boulot étant donné les conditions, mais l'espoir disant que allez, on va avoir un président noir et tout va être effacé, je pense pas que c'est beaucoup de sens.
Sylvie Laurent.
Je serais peut-être encore plus pessimiste ou plus négatif que Ta-Nehisi en disant que ça va sans doute plus mal aujourd'hui pour les Noirs parce que le fait d'avoir un président noir américain, les gens se sont dit bah voilà, ça y est, maintenant qu'il y a un président noir américain, alors allons-y, exprimons notre ressentiment et notre colère blanche. Là, pour le coup, peut-être l'une des bonnes nouvelles et l'une des bonnes choses de cette fin de mandat de Barack Obama, c'est le renouveau d'un activisme, notamment chez les jeunes Noirs afro-américains qui s'organisent, qui renouvellent les droits civiques, qui disent que désormais ça n'est plus possible de continuer. Et je crois que même s'il n'est pas officiellement affilié à cette espèce de renaissance noire, de ce nouveau mouvement des droits civiques américains, Ta-Nehisi a peut-être offert, comme Baldwin en son temps, la plus belle page et les plus belles phrases permettant de penser cette renaissance de la conscience noire qui est née paradoxalement de l'étiage historique dans lequel se trouvent les Noirs à l'issue du deuxième mandat de Barack Obama.
Vous parlez, Sylvie Laurent, de cette renaissance d'un activisme noir américain. Votre choix musical, Ta-Nehisi Coates, s'est porté sur le groupe Outkast et nous avons choisi la chanson Rosa Parks.
The type of people made the club before. Many a day has passed, the night has gone by, but still I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos, but these playoffs thought we was amps, and we're taking another route to represent the Dungeon family like Grey Day. Me and my nigga decide to take the back way. We stabbing every city, then we headed to that back cave. ATL, Georgia, what do we do? Fall ya. Bulldogging hoes like them Georgetown Hauliers. Boy, you signed the silly, think my room is sitting pretty, doing donuts while you suckers like them circles around titties. Damn, we the committee, gon' burn it down, but us gon' bust you in the mouth with the chorus now. Say, stimulate and activate the left and right brain. Say, baby boy, your only phone can add your last cut. You focus on the past, your ass will be your hands. What? That's one to live by, or either that's one to die to. I try to just throw it at you, determine your own adventure, Andre. Got to a station, here's my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kind of sour.
Un grand merci, Ta-Nehisi Coates, d'être venu à la grande table pour nous. Je suis très ému en fait. Vous nous parlez d'une colère noire, lettre à mon fils qui est paru aux éditions Autrement, dans une traduction de Thomas Chaumont. Merci à vous, Michel Zlotowski, d'avoir assuré la traduction simultanée de ces propos. Merci à vous, Sylvie Laurent. Sachez que Ta-Nehisi Coates sera à la Maison de la Poésie à Paris demain à 19h. La rencontre est est animé par l'ami Hervé Gardette. La Grande Table, vous pouvez la retrouver sur Twitter, sur Facebook, la réécouter, la podcaster sur le site de franceculture.fr. La page est actualisée chaque jour. Elle comporte notamment toutes les références bibliographiques et musicales que nous avons citées. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la prise de son aujourd'hui, Anthony Thomasson.